Nous allons continuer donc dans l'épître aux Romains que nous avons commencé. La dernière fois, nous avons vu combien l'apôtre Paul voulait transmettre le message de l'évangile, en disant que l'évangile était une personne, Christ. Et nous avons vu aussi que le juste vivra par la foi, nous avons vu que la foi obéissante. Donc là, nous allons continuer, c'est dans Romains chapitre 1, verset 18. 18 à 21. Un petit cours, un passage court, mais qui dit beaucoup de choses. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Hier, à la prison, j'ai lu ce même passage. Et je leur ai posé la question, est-ce qu'il y a un mot qui vous choque dans ce passage? Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, le mot colère, la colère de Dieu, parce que Dieu est amour. Et c'est vrai que parler de la colère de Dieu, ça nous surprend, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que Dieu est amour, il est plein de bonté, de miséricorde, de patience, et même de dire, et nous le lisons, qu'il est lent à la colère. Alors pourquoi parler de la colère de Dieu, surtout quand on vient juste de parler de l'Évangile? Parce que juste les versets qui précèdent, et car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est la bonne nouvelle. Pourquoi parler de la colère? Ben, la suite du passage jusqu'à la fin du chapitre 3 va nous dire pourquoi l'homme a besoin de l'évangile, justement. Pourquoi l'homme a besoin de l'évangile? Parce que la colère de Dieu est sur l'homme à cause de son péché. Parce que l'homme est perdu sans lui. C'est pour ça que... on parle de l'évangile, mais on parle aussi, et là, il y a tout un développement jusqu'à la fin du chapitre 3. On va parler des païens, des juifs, et que tous, en fin de compte, sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai que la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère de l'homme. La colère de l'homme est souvent émotionnelle et injuste. Elle ne se maîtrise pas. Je vais peut-être vous surprendre. Mais la colère fait partie des attributs de Dieu, autant que l'amour. William Gruden dit ceci, « Cela peut nous surprendre de voir le grand nombre de fois où la Bible parle de la colère de Dieu. Pourtant, si Dieu aime tout ce qui est juste et bon, et tout ce qui est conforme à son caractère moral, nous ne devrions pas être surpris qu'il ait de la haine pour tout ce qui s'oppose au caractère de son caractère moral. La colère de Dieu peut être définie comme suit. La colère de Dieu signifie qu'il hait profondément le péché. Habacuc disait, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Et même, je pense que face à la méchanceté, à la cruauté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses qui vous ont révolté. Vous voyez une méchanceté, une cruauté. Et quelle est la première réflexion qui vient dans votre cœur? Mais pourquoi Dieu n'intervient pas? C'est vrai ou pas? Vous n'avez pas cette attitude-là? Mais pourquoi Dieu ne juge pas? Pourquoi Dieu ne punit pas? Et c'est vrai que la colère de Dieu est souvent manifestée, on le voit dans l'Ancien Testament, où on parle de sa colère, ses jugements, mais c'est toujours face et toujours à la conséquence du péché. Dès la Genèse, il est dit ceci dans Genèse 6, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment, uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Et un peu plus loin, il dit à Noé de faire une arche. Il dit, je vais faire venir un déluge sur la terre pour détruire toute créature qui a le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra, mais pas toi et ta famille. On voit là la colère de Dieu se manifester face à la méchanceté, face au péché. Un peu plus tard, face à Sodome et Gomorrhe, Dieu va prévenir Abraham. Il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et c'est pour cela qu'il envoie deux anges pour retirer Enoch et sa famille. Et il leur dit, et ces deux hommes disent à Lot de sortir de cet endroit parce qu'il va la juger. Lot, c'est ça, je me suis trompé. J'ai essayé de comprendre. On voit la colère de Dieu aussi pour l'Égypte avec ses 10 plaies. Il a frappé l'Égypte avec tous ses dieux, toutes ses idoles. On voit aussi encore d'autres passages comme la révolte de Corée et de Dathan et d'Abiram. À un moment donné, ils se sont révoltés et en se révoltant, ils ont méprisé l'Éternel. Et vous savez ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte et les a engloutis tous vivants. À un tel point que le reste du peuple, ils ont crié, ils ont eu peur, ils sont partis. On comprend cela. On pourrait continuer la liste. La semaine dernière, vous avez vu la chute de Samarie en 722 avant Jésus-Christ, hein, avec la déportation des 10 tribus, des 10 tribus du Nord, à cause de l'idolâtrie, à cause du péché. Et plus tard, en 604 jusqu'à 586 avant Jésus-Christ, la destruction de Jérusalem par l'armée babylonienne. Voilà les jugements de Dieu, et il y en a d'autres. Mais je voudrais m'arrêter sur un qui est très intéressant, c'est celui de Jonas. Jonas, dans le livre de Jonas, Dieu appelle Jonas et il lui dit, va à Ninive la Grande. Va et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors c'est sûr que Jonas lui dit, pas grave, s'il punit Ninive, c'est bien. De toute façon, Ninive, c'est des ennemis. Alors qu'il les punisse, moi je ne vais pas y aller. Et c'est pour ça qu'il a fui, qu'il a pris le bateau pour aller à Tarsis, en Espagne. Et vous connaissez le récit. Jusqu'à temps qu'il soit avalé par un poisson et qu'il soit rejeté. Et dès qu'il est de nouveau sur le rivage, le Seigneur lui dit, va à Ninive. Et on voit que Jonas va à Ninive et pendant 3 jours, parce qu'il va traverser la ville, elle est grande, pendant 3 jours, il va parler que Dieu va détruire cette ville. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens entendant cela, ils se sont repentis. Et même le roi a donné cet ordre. Abandonnez vos voies. Arrêtez. Revêtez des vêtements, des sacs. Jeûnez. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Et c'est très intéressant. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés et s'en abstient. Formidable, hein ? D'un côté, on voit la colère de Dieu contre le péché, mais on voit un peuple qui se repent et Dieu va arrêter son jugement. Et là, on voit la colère de l'homme. Jonas, il n'est pas content. Il est irrité contre Dieu. Ouais, mais pourquoi tu les punis pas ? C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Je savais que tu allais faire grâce. Et il y a l'expérience du ricin. Il était tout content. Dieu a fait pousser un ricin, il était tout content. Puis le lendemain, Dieu a desséché le ricin, puis il était en colère. Puis il dit, oh, regarde, pour ce ricin, tu te mets tout... T'as vu comment tu te mets à cause d'un ricin ? Et là, regardez, écoutez la dernière phrase que le Seigneur dit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Vous voyez, la colère de Dieu, elle est là, mais la grâce de Dieu est là aussi. Lorsqu'on nous pensons à la colère de Dieu, nous devons également garder sa patience à l'esprit. La colère et la patience sont mentionnées ensemble dans le psaume 103, où il dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse et ne garde pas sa colère à toujours. » Ou alors dans Lamentation, il dit « Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » C'est pas volontiers qu'il le fait. Mais il voit quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur le voit. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le mot colère y est aussi. La preuve, nous l'avons au verset 18, la colère de Dieu se révèle. Il y a même un chapitre connu où il nous parle de l'amour de Dieu et de la colère de Dieu. Jean 3. Jean 3, 16, où il nous parle... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il est dit aussi, au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ou dans Parole vivante, il dit « Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. » C'est dans le Nouveau Testament. Et il y a d'autres passages, et toujours à cause du péché, on voit la colère. Je prends un passage dans Éphésiens. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et dans Colossiens, faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Est une idolâtrie à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, la colère de Dieu, elle est là. pourquoi. Je relis le passage du verset 18 en parole vivante. Dieu manifeste sa colère du haut du ciel, et là on a le pourquoi, aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive dans leur méchanceté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais bien souvent, les gens ils disent, mais ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, comment ça va se passer pour eux? Après tout, ils sont excusables, ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Si on lit la suite, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. La création est un livre ouvert de Dieu. Il y a quelques passages que nous pouvons voir, c'est dans le psaume 19, il est dit « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre, nuit transmet la connaissance. » Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leurs voix parviennent jusqu'aux confins de la terre et leur accent dans tout l'univers. Ou dans le psaume 8, « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Alors c'est sûr que André pourrait parler des heures sur la création, pourrait parler de toutes les merveilles de la création. Les gens croient que le monde vient du hasard. Il y en a qui disent peut-être le Big Bang. Ben même, admettons le Big Bang, avec une explosion. Mais comment la vie sur la Terre? Comment cette complexité de chaque être humain, de tout ce que nous voyons? Rien que là, ça veut dire qu'il y a un Créateur. Mais Dieu, mais les hommes rejettent le Créateur. Rejettent. Et c'est facile de rejeter le Créateur. Vous savez pourquoi les gens rejettent le Créateur? Ben, s'il n'y a pas de Créateur, je n'ai pas de compte à rendre. Je viens du hasard, je n'ai pas de compte à rendre, ben, je peux faire ce que je veux. Mais si il y a un Créateur, et comme la Bible l'affirme, ben, j'ai des comptes à rendre. Le refus de l'homme d'adorer le Créateur, de se soumettre au Créateur. Mais il ne faut pas oublier que Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés, il voulait un vis-à-vis. Il nous a créés pour lui, dans le but de le glorifier. C'est notre mission d'ailleurs, sur la terre. Pourquoi on est sur la terre? C'est pour glorifier Dieu. Tant qu'on ne comprend pas cela, on est à côté. Si je pense que je suis sur la terre, ah, c'est pour, allez, je vais m'éclater, je vais faire tout ce que je veux, je vais profiter de la vie, je vais faire tout ce que... pour moi, pour moi, pour moi. Parce que l'homme se prend pour Dieu, il est à côté de la plaque. Et par contre, quand il voit que sa vie a un sens, que si il fait tout pour sa gloire, là, il va agir, il va même apprendre un métier pour sa gloire. Et tout ce que je vais faire, ça va être pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que les hommes ne veulent pas reconnaître la création. Ils ne veulent pas reconnaître qui est un Créateur. Je voudrais revenir sur la colère de Dieu. Peut-être pour arriver peut-être à mieux comprendre la colère de Dieu, C'est vrai que ce matin, on a dit plusieurs fois que Christ était mort pour nous, pour nos péchés. Mais peut-être qu'on ne considère peut-être pas que le péché est si grave. Oh, Christ est mort pour mes péchés. Et on peut le dire d'une façon, voilà, il est mort pour mes péchés. Mais si on est conscient qu'à cause de moi, Christ a subi la colère de Dieu sur lui. Peut-être que là, ça nous fait à réfléchir. Christ a subi la colère de Dieu. Parce que la Bible, il dit qu'il a été fait péché pour nous, il a été frappé pour nous. Dans Ésaïe 53, je l'ai lu dans une autre version, il est dit, il a été transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Transpercé, écrasé. C'est la colère de Dieu sur son Fils. La correction qui nous vaut la peine est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alors on peut comprendre ce cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est là où on voit toute la signification de la colère de Dieu face au péché. Et c'est son Fils qui a subi cette colère pour moi, pour me faire grâce. Dans 1 Jean 4, 10, dans la version Derby, il dit ceci. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qui nous envoya son Fils pour être la propitiation de nos péchés. Propitiation. Alors bien souvent on enlève ce mot propitiation parce que c'est un peu compliqué et on dit expiation. Mais le terme propitiation est très fort. C'est dans le but d'une victime pour apaiser, un sacrifice pour apaiser, pour que Dieu soit propice. Je prends l'exemple de, vous savez, Jésus donne cette parabole du pharisien et du publicain. Alors il y a le pharisien qui se vante de tout ce qu'il fait, et il y a le publicain qui vient et qui se frappe la poitrine et qui dit: ô Dieu, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Sois propice. Car je suis un pécheur. Alors maintenant, je vous relis 1 Jean 4, 10, mais dans la version Sommeur. Comme ça, il y a des fois, c'est là où on va en faisant les versions, ça nous aide peut-être. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Intéressant, hein? Pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Vous voyez la colère de Dieu sur son Fils. Il a subi la colère à notre place. Alors pour le véritable enfant de Dieu, il n'a plus à craindre la colère de Dieu. Et ça, c'est formidable. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! C'est formidable. On parlait de victoire ce matin, mais ça, c'est une victoire. Vous vous rendez compte? Il y a d'autres passages. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Un Thessaloniciens 10, il dit: et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ou encore 5:9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est c'est formidable, n'est-ce pas? Il n'y a plus la colère sur nous. Il n'y a plus la colère sur nous parce que Christ a porté cette colère à notre place. Il parle de péché, mais il parle aussi de châtiment. Il a porté ce châtiment, cette colère, pour que nous soyons graciés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, on peut se réjouir, n'est-ce pas? On peut, oui, se réjouir, mais aussi être reconnaissant et le servir avec zèle. Parce que on l'a échappé belle. Parce que si le Seigneur nous avait envoyés en enfer, il était juste, il avait le droit, et ça n'enlevait rien à son amour. Ça aurait été tout à fait juste de nous envoyer en enfer. Alors pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu ce matin, n'oubliez pas, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous allez dire, mais je crois. Oui, mais vous croyez comment? Vous croyez d'une façon intellectuelle que ça n'a rien changé à votre vie? Alors je vais vous le lire dans une autre version pour que vous compreniez qu'est-ce que veut dire croire ici. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc vous voyez, la foi avec l'obéissance, les deux ensemble sont liés. Hein. C'est pas la foi plus l'obéissance, c'est la foi obéissante. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et on peut dire qu'on est encore dans le temps de la grâce. On ne sait pas jusqu'à combien de temps encore. Le Seigneur dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, c'est le désir de Dieu. Il veut faire grâce, comme il a fait grâce pour les Ninivites. Mais il attend que vous puissiez vous repentir et que vous puissiez mettre cette confiance en lui. Et pour nous qui avons mis cette confiance en lui, soyons reconnaissants de ce qui nous a délivrés de cette colère et servons-le avec zèle et avec joie. Nous allons prier.